En tout cas, là, on va rentrer dans l'intelligent design, c'est ça, là, l'idée, là, le créationnisme. Créationnisme qui a été justement marginalisé en le taxant de religieux tout de suite au départ.
Ouais.
Mais l'intelligent design, qui ne se rattache pas à aucune religion, ce que je cherche, qui est tout simplement un groupe de scientifiques qui conteste certains éléments, soit du darwinisme ou du modèle évolutionniste ou de quoi que ce soit d'autre. Eux autres aussi sont en train de se faire savonner en se faisant traiter de créationnistes déguisés, alors que d'après ce que je peux comprendre, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas un mouvement créationniste, l'intelligent design.
Mais
ils sont marginalisés tout de suite parce qu'ils amènent justement ce que tu dis, que le modèle évolutionniste veut éviter à tout prix une cause intelligente au monde.
Oui. Parce qu'évidemment, si la nature qui nous entoure est le résultat, est le produit là, d'un agent intelligent, à ce moment-là, il y a d'autres questions qui se posent. Les questions ne s'arrêtent pas là. Parce que là, si on s'arrête là, évidemment, là, ça peut rester encore au niveau scientifique. Là, tout ingénieur va comprendre que s'il découvre un mécanisme, un appareil, un artefact qui est capable de faire un travail utile, l'ingénieur va regarder ça, puis il va reconnaître qu'il y a un travail de conception, de design qui est implicite dans l'artefact. Ça fait que, mais sur le plan cosmologique, dès qu'on aborde une logique de ce genre-là, ça pose problème parce que le raisonnement ne va pas s'arrêter là. À partir du moment qu'on a admis un agent intelligent qui est à l'origine des mécanismes, des organismes qui nous entourent et tout ça, les structures planétaires et tout ça, les systèmes solaires et tout ça, les questions ne s'arrêtent pas là. Et puis, c'est justement là où ça pose problème pour les élites dominantes de notre génération.
C'est drôle parce que ça donne l'impression, dans le fond, que le modèle évolutionniste, c'est comme un bouchon pour empêcher de réfléchir puis d'aller plus loin. Est-ce que je caricature? Autrement dit, en disant, il n'y a pas de cause intelligente, il n'y a pas d'agent intelligent qui a créé l'univers, ça veut dire, arrête de réfléchir à ça.
Ouais.
C'est le monde est comme il est, puis arrête de te casser la tête avec... cherche pas à savoir.
Ouais.
Alors, il faut que ça puisse paraître.
Mais c'est une conception qui est très utile sur le plan idéologique, parce qu'évidemment, il y a un certain nombre d'idéologies qui se développaient tranquillement au cours du 19e, en fait, le siècle des Lumières, et puis qui ont pris une forme plus dure au cours du 19e siècle. Quand la théorie de l'évolution, quand Darwin a publié l'origine des espèces en 1859, c'était une théorie qui était attendue. C'était dans l'air du temps. D'ailleurs, il y avait Monsieur Wallace qui a publié une thèse qui était presque identique. C'était devenu, sur le plan idéologique, c'était devenu nécessaire. C'était quelque chose qui était une explication. Parce que jusqu'à ce moment-là, les gens pouvaient avoir, par exemple, des croyances matérialistes. Il y avait des matérialistes avant Darwin. Mais ces gens-là n'avaient pas encore d'explication crédible des origines. Parce que, bon, il fallait appuyer les concepts par l'aura scientifique, l'autorité de la science. Et puis, mais jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'explication crédible des origines pour expliquer, par exemple, comment des mécanismes complexes comme l'œil ou, en fait, les systèmes qui sont implicites dans les systèmes biologiques pouvait exister sans l'intervention là, d'un agent intelligent. Fait que la théorie de l'évolution avec la sélection naturelle apportait ça apportait une explication qui semblait plausible avec les données de la science de l'époque, mais qui était surtout très utile sur le plan biologique. Les gens, en fait, il y a même des scientifiques qui ont dit, mais à partir de Darwin, je pense que c'est Dawkins, ma mémoire m'échappe un peu, mais il dit, à partir de la théorie de l'évolution, de la publication de l'origine des espèces, c'était possible d'être un athée accompli, un athée qui était satisfait d'avoir, ayant une explication satisfaisante des origines.
Autrement dit, quand les chrétiens ou les croyants en général se font dire que leur foi est une béquille pour leur conception du monde, on pourrait dire que l'origine des espèces, c'est la béquille des matérialistes.
Ah oui, ça, la nécessité de poser une explication des origines se pose dans tous les contextes, sur le plan individuel, sur le plan institutionnel. La cosmologie, il n'y a personne qui peut éviter ces questions de cosmologie. Donc, pas plus dans le contexte matérialiste, ces questions-là se posent toujours. Et puis, il faut un mythe d'origine, si on peut dire. On peut, si on relativise la définition d'un mythe d'origine, c'est un récit qui nous explique d'où on vient. Et puis là, aujourd'hui, les anthropologues s'amusent souvent à nous dire que le mythe prend la forme du rite aussi, là, dans les sociétés primitives, là. Mais si on va dans un musée moderne aujourd'hui dans nos grandes capitales, ben finalement, on peut avoir des rites aussi multimédia où c'est qu'on va nous faire voyager dans le temps puis voir, être témoin là, de l'évolution des espèces. Et puis, ça fait que nous, on peut se satisfaire là, de voir vécu l'évolution en voyant là, un film là, qui nous décrit tout à partir de la première bactérie jusqu'à les organismes qui nous entourent.
Un peu comme une tribu réunie autour d'un feu pourrait se contenter d'une espèce de danse sacrée qui explique le mythe fondateur, comment la divinité première a créé le monde avec de la boue, puis peu importe ce que c'est. Okay? Ouais. Puis pour eux autres, c'est comme on l'a vu, on l'a vécu. Ouais. Dans le fond, tu es en train de tracer une analogie entre finalement, le rituel qui est vécu dans certains musées d'histoire naturelle.
Ah oui, absolument.
Avec une tribu réunie autour d'un feu en train de faire un rite tribal.
Le moderne n'échappe pas à ce besoin de sens. Le moderne est pris dans. Puis même chaque société aussi a besoin de construire, d'intégrer un peu le savoir et les pratiques et tous les aspects de la culture. Et puis, c'est toujours fondé dans une cosmologie. Et puis, bon, évidemment, ce que les anthropologues disent sur les mythes, c'est que toute la culture exprime des préceptes cosmologiques sous des formes un peu, toujours, en général, à ce moment-là, c'est implicite. C'est pas nécessairement un récit là, des origines, mais finalement, c'est des concepts qu'on reprend et puis qu'on exprime dans d'autres contextes. Et puis, ce qui fait de la richesse là, des cultures, finalement, là, ce qu'on pourrait dire une religion réussie, c'est une religion qui est pas juste dans la tête d'un fondateur, mais qui a atteint un stade où est-ce que c'est que toutes les institutions sont colorées par une conception, une façon de voir les choses.
Là, je vais sortir de mon questionnaire parce qu'il y a de quoi qui vient de me passer par l'esprit, puis je pense que... Je sais que tu es un amateur de rock'n'roll, mettons, addicted, donc est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais.
Bon.
Ouais.
En plus, un fan de U2 de longue date, c'est toi qui m'as fait découvrir U2. OK. Puis c'est parce que tu parles d'une religion réussie, c'est une religion qui réussit à passer et exprimer des concepts à travers des façons de faire d'une société.
Oui.
Oui, bon,
ouais.
OK. Puis je pense au fameux rock'n'roll, parce que c'est une discussion qu'on a eue souvent, tous les deux, à propos de puis avec d'autres, à propos de l'origine du rock'n'roll, OK? Puis finalement, on en est venu à se dire que, quand on regarde comme il faut, le rock'n'roll est né dans les églises évangéliques, puis il y a des formes de rock'n'roll très typiques qui sont nées dans des dénominations plus récentes, comme les Assemblées de Dieu, puis les... Bon, il faut connaître le monde protestant, là, pour suivre un peu ce que je dis, mais, bref, par exemple, que... justement, les gens de YouTube, je pense qu'il y en a deux ou trois qui ont été élevés dans des églises pentecôtistes.
Oui, oui.
Puis Elvis.
Charismatique, peut-être.
Okay, charismatique.
Le... Ouais.
Puis j'ai appris qu'Elvis a été élevé carrément dans les Assemblies of God.
Sa mère était pentecôtiste, puis Assemblies of God américain, effectivement.
C'est ça. Puis que c'est son genre de mouvement qui a été taxé d'indécent par des religions plus traditionnelles, okay? C'était carrément le comportement commun qu'il avait vu, lui, chez les prédicateurs lorsqu'il tombait dans le Saint-Esprit, ou bon, etc. Bon. Puis, bon, en tout cas, mais le fond de ma question, c'est, le rock'n'roll, on peut dire que Elvis Presley a comme été un des premiers à diffuser ce type, à créer la forme, si on veut. Okay, il y a eu Bill Haley avant, peut-être, ou d'autres comme ça.
Ouais.
On peut dire que Presley a comme formalisé pas mal ce qui était le rock'n'roll, OK? Puis, dans le discours du rock'n'roll, il y a un genre de rébellion. On dit des vérités, on dit même des choses qu'on voudrait pas. Puis un des prototypes de ça, c'est Bob Dylan, les Doors, les Stones, on peut en nommer U2 justement.
Moi aussi.
U2, c'est très typique. Puis Bref, ce que je veux dire, c'est quand moi je vois l'histoire du rock'n'roll, je peux pas m'empêcher de rapprocher ça de l'histoire des prophètes dans l'Ancien Testament.
Ah ouais.
Des prophètes.
Ouais.
Okay, je sais pas, au niveau anthropologique, toi, si tu trouves que l'analogie est valable. Mm. Autrement dit, c'est comme si la société avait décidé de récupérer l'image du prophète, celui qui crée ses vérités aux États-Unis, et en faire une institution sociale qui utilise pour passer des messages.
Ouais.
Live 8, qui date justement, encore une fois, il y a deux jours ou trois jours, c'est tout simplement des rock'n'rollers qui viennent crier aux autorités. Il faut que...
Des remises en question.
Ouais. Puis ça a commencé avec, je me souviens plus, là.
C'est une tradition, en fait, là, qui est assez inhérente, en fait, en Occident, là, finalement, là, de voir... Justement, la façon de voir l'État aussi, le rapport à l'État, là, il y a, bon, dans la tradition, l'ancienne tradition, l'Antiquité hébraïque, où est-ce que c'est qu'il y avait... En fait, si on remonte à l'Antiquité hébraïque, la première institution qui existe, c'est d'abord les prophètes. L'État, le roi, existe plus tard. Ce qui existe d'abord, c'est les prophètes. Et finalement, les Juifs, là, quand on lit, par exemple, le livre des Juges, les Juifs... de l'époque, voyait le prestige des rois des nations autour, puis finalement, on finit par être influencé par ce prestige-là, puis on dit, nous, on en veut aussi. Nous, on veut être comme eux, on veut avoir un roi, on veut quelqu'un qui nous dirige, qui nous amène au combat, et puis qui va nous montrer, qui va montrer aux autres nations comment est-ce que c'est que nous aussi, on est une nation prestigieuse, et puis... Le prophète Samuel qui était dominant à cette époque-là, il dit bon ben là Dieu ça va pas, c'est pas ça que c'est pas l'intention de Dieu. Mais Dieu leur dit donne-leur un roi. Ils réclament un roi, donne-leur un roi. Et puis mais il y a toujours eu une distance, une institution qui pouvait servir de critique tout au cours de l'histoire de l'histoire juive où les prophètes pouvaient remettre en question l'autorité du roi. Et puis, là où c'est que le christianisme s'est bien attaché à cette tradition-là, il y a toujours eu aussi des institutions critiques qui pouvaient remettre en question l'autorité absolue du roi, l'autorité politique. Il y a eu des époques où ce pouvoir-là a été accaparé, par exemple, l'époque de Constantin. Constantin, finalement, dirigeait l'Église. Il décidait, là, il convoquait des rencontres de théologiens pour régler des choses. Et puis, il y a eu une époque où, finalement, là, la religion aussi est à la remorque de l'État, où c'est que l'État imposait une certaine, soit luthérienne ou catholique, selon les pays. Et puis, mais à partir du moment où c'est que, par exemple, chez les évangéliques, il y a eu une coupure. L'État, la religion n'était plus une institution d'État. La religion devait être indépendante. Et puis ça favorisait un genre de brassage de liberté d'opinion et un brassage de liberté, une distance critique aussi face à l'État. Parce que dans le contexte, soit au niveau islamique ou l'Occident du Moyen-Âge, toute critique de l'État était une critique de la religion aussi. Parce que les deux, la fusion était... tellement forte, l'identification de l'État à la religion était tellement forte qu'une critique de l'État revenait aussi une critique de la religion, ce qui était impensable. Ce qui fait que pour qu'il y ait vraiment une liberté d'expression sur le plan politique, il fallait que la religion prenne une distance face à l'État. Et il y a eu déjà une certaine distance pendant l'époque de la Réforme, au début de la Réforme, mais les premiers... Ça a pris l'influence là, des premiers évangéliques, les Moraves, et puis les Piétistes, et puis d'autres, qui ont les Baptistes, aussi les premiers Baptistes, qui finalement ont pris une distance. La religion n'était plus une religion d'État. Puis ont réclamé leur liberté. Certains ont dû réclamer, trouver leur liberté par l'exil. Et puis, finalement...
Ben là, on est en train presque d'approcher la fondation des États-Unis, là.
Oui, on s'approche...
Parce qu'après les persécutions, ils ont décidé de sacrer le camp, excuse le terme, puis de dire, faut trouver une autre place pour essayer de se bâtir une société.
C'est ça. Fait que ça... Et puis, l'Angleterre, finalement, aussi, le roi est devenu de plus en plus marginalisé. Le processus en Angleterre était beaucoup plus lent. Il y a eu des petites confrontations, mais en fait, pour l'époque, là, c'était des confrontations difficiles. Mais le pouvoir royal a été diminué tranquillement sur une longue période. Et puis, une démocratisation qui s'est intégrée. Et puis, des institutions démocratiques se sont construites lentement. Mais finalement, là, qui ont donné des résultats, finalement, qui ont été copiés dans beaucoup de pays aussi, là. Tandis que, par exemple, dans le cas de la France...
Non, attends un peu, là. C'est parce que, tranquillement, tu es en train de nous dire que la naissance des grands mouvements démocratiques contemporains, si on veut, des 300, 400, 500 dernières années, OK, là, qu'on voit comme des modèles de l'agnosticisme et de l'athéisme et tout ça, et du matérialisme, sont en fait nés carrément de mouvements de l'Église.
Oui, oui.
Autrement dit, tu es en train de nous dire que la pensée civile, la pensée civique, le concept des droits de l'homme émergent de dénominations chrétiennes qui ont voulu se distancier de l'État.
Oui, oui. Évidemment, les conséquences politiques n'étaient pas prévues par ces gens-là initialement. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est de pratiquer leur religion et de la pratiquer de façon convenable, mais sans l'intervention de l'État. Et puis, juste le fait de gagner cette liberté-là, ça a eu des conséquences sur l'ensemble des sociétés où cette liberté était désormais permise. Et ça a eu des conséquences sur la pratique de la politique aussi, là, la pratique la façon de fonctionner des institutions politiques, où c'était possible d'avoir les avis divers, puisqu'on permettait la liberté de penser sur le plan idéologique ou des croyances religieuses. C'était désormais possible aussi de le concevoir sur le plan politique, d'avoir des partis politiques différents qui pourraient représenter des groupes plus ou moins grands de la société dans laquelle ils se trouvent.
Puis si on revient à la question du rock'n'roll, donc moi ce que je voulais faire, c'est le lien entre le rock'n'roll dans son essence actuelle, qui est vu comme une espèce de culture de contestation, culture musicale, bon, etc. Et puis le rôle des prophètes, qui est un rôle typiquement très typique en tout cas dans l'histoire du christianisme et du judaïsme.
Oui.
Fait que donc, OK, là donc on est en train de voir comment les contestations puis la revendication des libertés individuelles, dans ce cas-ci, par des mouvements chrétiens, a créé le mouvement quasiment des libertés civiques, si on veut dire, de façon générale.
Oui.
OK, puis si on essaie de rapprocher ça de la nature du rock'n'roll aujourd'hui.
Oui, effectivement. Là, il y a une tradition, finalement, là, la possibilité d'avoir des instances critiques dans la société. Justement, le rock'n'roll est dans cette mouvance-là. Il y a différents aspects, là, des thèmes qui peuvent être abordés par le rock'n'roll. Il y a une tradition du rock'n'roll qui s'accroche au blues. Et le blues, bon, c'est un genre de reflet un peu, parfois un peu pessimiste, un peu les réalités dures de la vie. Mais il y a aussi dans le blues aussi un aspect de remise en question aussi, puis les traditions prophétiques, justement, ça l'a permis un peu une indépendance, puis une remise en question des grandes institutions, là. Ça fait que les libertés religieuses qui ont été acquises suite à la réforme ont permis l'éclosion, là, d'instances critiques dans la société, soit des instances sur le plan politique ou sur le plan artistique, ce qui se reflète, par exemple, dans des artistes qui dans le blues, dans le rock, et puis les autres types, les chanteurs folk, par exemple, qui étaient très interventionnistes, là, les ancêtres, là, de Bob Dylan. Bob Dylan qui a ses racines dans le folk, là, plus, là, que dans le blues, là. Et puis, ça, c'est tout un genre de fermentation sociale que, sans doute, les gens qui étaient impliqués initialement, là, ils n'auraient jamais prévu toutes les implications que, bon, eux, ils cherchaient à développer seulement la liberté de pratiquer leurs croyances, puis avoir une indépendance face aux idéologies dominantes, les façons de voir dominantes.
Et puis comment t'expliques si le rock'n'roll, la culture du rock'n'roll, a des caractéristiques qui sont très chrétienne, dans le fond, si on regarde historiquement chrétienne.
Oui.
Comment t'expliques que l'Église, en général, a eu tant de misère avec le rock'n'roll, l'a rejeté carrément, puis dès que ça a commencé à émerger dans la société, au lieu de reconnaître ce qui était issu d'elle, puis de l'encourager ou d'essayer de le soutenir, ils l'ont carrément rejeté, condamné, etc., t'sais.
Différents facteurs. D'abord, l'Église, si on peut parler un peu de l'Église et des églises évangéliques, les églises protestantes, avaient déjà le 19e siècle et le 20e siècle a vu la montée des élites modernes et puis la marginalisation un peu en parallèle avec de manière inversement proportionnelle, on pourrait dire, avec la montée des élites modernes, on a vu la diminution de l'influence des anciennes élites qui étaient fondées, qui tiraient leur prestige et leur présupposé de la vision du monde judéo-chrétienne. Donc, le 20e siècle a vu la diminution de leur influence, puis étant donné la marginalisation là, des différents groupes des chrétiens, des protestants en particulier, ces gens-là avaient une identité culturelle qui était liée au passé, liée à des cultures passées. Et puis, le rock'n'roll était un ferment qui était identifié au moderne, de façon un peu grossière peut-être. Et puis bon, évidemment, là, les intervenants les plus connus dans le rock'n'roll ne s'identifiaient pas comme chrétiens en général. Ce qui fait que il y avait une chance qui a été manquée d'une certaine manière. Il y avait une possibilité, là, ça aurait pu, si les églises chrétiennes n'étaient pas aussi fortement identifiées à des cultures passées, il y aurait pu adopter un peu le rock'n'roll comme un autre médium qui aurait pu intégrer une vision du monde judéo-chrétienne et le retransmettre.
Parce qu'une bonne part des critiques du rock'n'roll, ça a trait à la justice sociale, ouais, l'exploitation, le respect de la liberté, ouais, qui sont toutes, il me semble, des thèmes qui sont assez compatibles avec la pensée,
ouais,
chrétienne.
Oui, c'est ça. Mais c'est faut dire peut-être que il y a un côté, il y a certaines valeurs aussi dans le rock'n'roll. Il y avait la façon de voir l'intérêt pour les parties, la célébration, là, un peu. Là, c'est un thème qui est très puissant dans le rock'n'roll. Et puis finalement, aussi, le rock'n'roll reflétait aussi des changements de valeurs sur la sexualité aussi. Ces choses-là étaient en conflit avec les valeurs judéo-chrétiennes. Et puis finalement, plutôt que d'éviter de faire des jugements nuancés, on a jeté un peu le bébé avec l'eau du bain. On a fait un jugement tranché, là, finalement, sans nuance, puis dire, bon, ben, étant donné que le rock'n'roll avançait ces valeurs-là qui étaient vues comme conflictuelles, et puis il y en a un certain nombre qui étaient évidemment conflictuelles, mais en fait, si on regarde finalement l'ensemble de la culture qui est dominante, là, si on regarde, on pourrait voir, par exemple, des formes de musique plus traditionnelles comme le country. Si on regarde ça avec une attitude critique, on constate que le country, finalement, véhicule beaucoup de valeurs modernes qui sont en conflit tout aussi bien avec les valeurs judéo-chrétiennes.
Ben, en tout cas, on pourrait parler de l'opéra aussi.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait qu'il y a
on pourrait parler du chant traditionnel aussi.
Oui. Fait que le rejet du rock and roll dans les milieux protestants, les milieux évangéliques, était lié surtout à une identification culturelle. Ces milieux-là s'identifiaient à des cultures, mettons, d'avant de la Deuxième Guerre mondiale, des cultures plus middle class, des cultures plus conservateurs. Et le rock'n'roll était rejeté parce que c'était de notre culture. Et pour ce qui était finalement, là, étant donné la ghettoisation du christianisme à cette époque-là, pour devenir chrétien, il fallait aussi à s'identifier à cette culture-là. Ça fait que la conversion était vue non seulement sur le plan là, de cosmologie, là, des concepts, là, des concepts théologiques, mais c'était vu aussi sur le plan culturel. Il fallait penser d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, s'intéresser à certaines formes de culture et rejeter certaines d'autres formes de culture. Tandis que sur le plan judéo-chrétien, finalement, le chrétien, si on s'intéresse à ce que c'est que le dit nous les Écritures, mais finalement, toutes les formes de créativité sont dues au fait que l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme est créatif, puis l'homme, la créativité, finalement, c'est dû au fait que l'homme est fait à l'image. Dieu est créateur, et l'homme est fait à son image. Et si l'homme peut être créatif, c'est dû à ce fait-là que lui, comme il est créatif comme Dieu, mais sur un niveau différent. Avec les moyens, Dieu est créatif de façon ex nihilo. Il peut créer, il peut concevoir un univers, un système solaire à partir de rien, à partir de sa pensée.